fondamentale sans doute triantrie se pose dans la société humaine pour arriver finalement à Israël, à qui la Torah est révélée avec pour objectif de résoudre ce problème de la coexistence des personnes. Et encore une fois, retenez simplement ce que je vous dis là, c'est une des lectures. Il y a 70 lignes de lecture de base de ces textes. Ne croyez pas que lorsqu'on a lu un verset pour notre sujet, on a lu le verset totalement. Bien. Qui pourrait dire comment vous avez appris déjà au Talmud Torah ou à l'école juive ou dans votre culture juive, quel est le verset qui montre qu'effectivement, un des problèmes essentiels que la Torah veut résoudre, c'est le problème de la relation à autrui. C'est un verset que tout le monde cite pour dire ça, c'est l'essentiel de la Torah. Voilà, oui. Alors, qui se rappelle de la citation exacte? Amar Rabbi Akiva. Non, Amar Rabbi Akiva Omer. En quoi tu parles? En patawen. Va doucement, va doucement. Ne te noie pas. Chut, c'est lui qui parle. Amar Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Et qui pourrait continuer? Mais non, oh là là. Vous êtes sur une toute autre Mishnah que vous venez d'apprendre, je suppose. Mais est-ce que vous suivez ce qui se passe? On vient de parler du verset de Atalecha Kamocha et tu me bascules dans une toute autre Mishnah du Kachar. Et c'est comme ça que vous avez appris, là où vous avez appris, le cinéma permanent. Il faut vous rattraper cette maturité qui vous manque, parce que sinon vous perdez votre temps, en tout cas ici. C'est pas des blagues ce que je vous dis là. Je serais impitoyable. Ceux qui ne savent pas étudier, allez jouer au billes. Mais soyez un peu attentifs à ce que vous faites. Alors, qui peut me citer cette Mishnah? Amar Rabbi Akiva, tu te rappelles plus. Et où tu l'avais apprise? À l'école. On ne l'a même pas fait chanter, en plus. Et tu l'as appris, et tu l'as oublié. Voilà, vous voyez pourquoi on perd les guerres. Alors, personne ne se rappelle de cette Mishnah? Alors, je vais vous la citer. Amar Rabbi Akiva. Et bien, alors, tout de suite que ce n'est pas simple. Amar Rabbi Akiva, ve'afta le'acha kamocha, zeklal gadol batora. C'est bien ça? Bon, alors je traduis. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a dit, Ve'afta le'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est comme ça qu'on traduit habituellement, mais ça c'est pas Rabbi Akiva qui l'a dit, il a cité le verset, c'est le verset dans le chapitre 19 de Vaïkra, Ve'afta le'acha kamocha, voilà ce que dit Rabbi Akiva, Zé, ce verset-là, Klal Gadol Batorah, c'est un grand principe de la Torah. Vous voyez que ça résume un peu tout ce dont nous sommes en train de nous occuper. Si on arrive à résoudre le problème de savoir comment on se relie au prochain. Ici, dans le verset, c'est le mot de réa qu'on traduit par le prochain. Bon, alors, puisque j'ai cité ça, on va étudier ça maintenant. Je prends le verset. D'abord, une première chose qu'il ne faut pas oublier, ce verset a une suite qu'on oublie toujours. On cite Ve'aftalecha kamocha et on oublie que le verset ajoute Ani Hashem Eloker. Alors retenez bien le verset jusqu'au bout. Ve'aftalecha kamocha Ani Hashem Eloker. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout à l'heure, je vais un peu nuancer la traduction parce qu'elle n'est pas exacte en hébreu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Hashem ton Dieu. Ce qu'il faut découvrir tout de suite, ça veut dire que Dieu nous prévient. De la même manière que je t'ai créé toi, j'ai créé ton prochain. Ça veut dire que Dieu protège mon prochain vis-à-vis de moi. De la même manière qu'il me protège moi vis-à-vis du prochain. Vous voyez comment le problème se pose. La relation d'autrui à autrui est double. Il y a comment moi je dois me conduire avec l'autre et comment l'autre doit se conduire avec moi. en fait, ce que je vais vous dire là, c'est simple pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, mais je vais vous l'expliquer quand même en français. Ça, c'est pas écrit en hébreu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est écrit une chose un peu différente, je voudrais que vous arriviez à bien la comprendre. Le verbe aimer en hébreu se construit de deux manières grammaticalement. Ehov, ahov, et, avec le complément direct d'objet, aimer quelqu'un, ou bien ahov le, aimer pour quelqu'un. Or ici le verset dit ve'ahavta le re'acha, il ne dit pas ve'ahavta et re'acha. Nous avons un autre verset, ve'ahavta et Hashem Elokecha, où la construction, elle, c'est la construction du complément direct d'objet, ehov et. Je vous donnerai ensuite le verbe parallèle pour la crainte de Dieu. Alors, ça signifie que l'objet de l'amour, dans le sens du verset ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est toujours Dieu lui-même. Mais ce que la Torah nous demande, c'est que cet amour qui va vers Dieu soit partagé par le prochain, passe par le prochain. Ve'ahavta, ça veut dire et Hashem Elokecha, mais l'ere'acha, pour ton prochain. Parce que le verset ne dit pas ve'ahavta l'ere'acha kelecha. Il dit ve'ahavta l'ere'acha kamocha. Donc traduire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une fausse traduction. C'est peut-être un peu vite pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, mais notez les deux formes, Ehov et et Ehov le. Si ça voulait dire tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, le verset, ce qui est très difficile à comprendre, parce que, et si jamais je ne m'aime pas, comment je vais réaliser l'amour du prochain? Vous savez, la haine de soi, ça se mélange à ce problème. Okay. Le verset dit Ve'avta le'e'acha kamocha et pas kelecha. Si ça voulait dire tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, le verset aurait dû dire Ve'avta le'e'acha kelecha. C'est clair? En gardant la même forme. Donc le verset veut dire tout à fait autre chose. Le mot de kamocha est en opposition à re'acha. C'est-à-dire Ve'avta le'e'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain parce qu'il est comme toi-même, quoi, créature du même Dieu, Ani Hashem Elokecha. Vous avez compris la différence de traduction. Ve'ahavta le'e'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain parce qu'il est comme toi-même. Et il y a un commentaire qui ajoute ton prochain qui est comme toi-même. Le contrat social ne peut se faire qu'avec ceux qui acceptent le même contrat social. Donc, laissons quand même ce problème de traduction de côté. Voilà le chidouche de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il veut nous faire entendre par ce verset? Zekla gadol la Torah. C'est un grand principe de la Torah. Il y a dans la Gemara deux autres enseignements parallèles qui mettent en évidence deux autres conduites que la Torah réclame et qui sont définies comme klal gadol batorah. Je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse-là, simplement pour indiquer que ça fait partie d'une discussion entre trois opinions. Quelle est la formule qui formule de la manière la plus totale toute la Torah en un seul verset? L'enseignement de Rabbi Akiva, c'est de dire Ve'ahavta le'e'acha kamocha. Il y a l'enseignement de Ben Hazaï, il y a l'enseignement de Yeshomrim, je ne vais pas les citer pour ne pas trop vous compliquer les choses. Et alors, voilà comment on lit habituellement cette Mishnah. Donc je reviens sur la lecture de la Mishnah. Ve'ahavta le'e'acha kamocha, ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zekel gadol batorah, c'est un grand principe de la Torah. Bon, ça c'est la lecture habituelle, classique, qu'il faut bien mettre en évidence. Entre parenthèses, on a appris qu'il faudra un jour corriger cette traduction « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans le sens de « Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». Mais dans tous les cas, le « comme toi-même » implique la notion de réciprocité. Eh bien, je vous donne une deuxième lecture, sans rien changer aux mots, en posant la question suivante. Comment se fait-il que ce principe, qui apparaît comme si clair, si évident, soit si difficile à pratiquer? Vous avez compris quelle est la question. Par exemple, je ne veux pas rentrer dans trop de parenthèses, mais par exemple, c'est une des choses essentielles qu'Israël a transmis au monde entier. Le monde entier, lorsqu'il parle de la loi de Moïse, ressemble finalement, on va garder ça. On va garder tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le reste, on le laisse aux Juifs, mais ça, on le prend. Et tout le monde semble être convaincu que c'est ça qu'il faut faire et personne ne sait le faire. La preuve, c'est que tous les échecs de toutes les civilisations viennent buter là-dessus. Sur la relation de personne à personne qu'on appelle, dans la culture contemporaine, on a trouvé une formule très claire, c'est le problème de la coexistence pacifique. Pouvoir coexister en paix alors qu'on est différent. Caïn et Abel posent le problème de la guerre et de la paix, dès le début. Et ce à quoi l'humanité, à la recherche de quoi, c'est d'arriver à établir les règles de la coexistence pacifique. Et ça commence entre le frère et le frère. Vous apprendrez dans le Pirkei Avot d'ailleurs, qui est une Mishnah importante, l'importance de ce que nous appelons en français la police. S'il n'y avait pas la police, eh bien les hommes s'entre-dévoreraient vivants. C'est parce qu'il y a la peur du gendarme que ça marche, plus ou moins. Mais si on enlève la contrainte de la loi, de la police, eh bien, le problème Caïn et Abel réapparaît dans toute sa gravité. Le mot de police en français est dérivé d'un mot grec. Police en grec signifie la cité. Les règles de comportement dans la cité sont garanties par la police, par la cité. C'est devenu finalement la Mishtara, enfin la police dans le sens restreint du terme. Vous avez ce mot de police grec qui revient dans des mots comme politique, par exemple. La politique, c'est la science de la vie dans la cité. Bon, alors je reviens au sujet. Voilà quelle est la difficulté. Comment se fait-il qu'un principe aussi évident semble si difficile à réaliser? Comment se conduire avec autrui, avec tout autrui? Eh bien, c'est l'objectif de l'enseignement de la Torah, selon cet enseignement de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, Ve'atayecha kamocha, zekla galdol la Torah. Pour savoir comment réussir ce principe, cet idéal, ce tahlit, cet objectif, eh bien, il nous faut toute une Torah, il nous faut tout un Shulchan Aruch. Pourquoi les hommes n'arrivent pas à réaliser dans la réalité un idéal aussi évident? C'est parce qu'il manque du mode d'emploi. Le mode d'emploi de Ve'ahavta l'Echa kamocha, c'est toute la Torah. C'est ça que veut dire Rabbi Akiva. On a un enseignement parallèle au nom de Hillel, mais je ne voudrais pas trop entrer dans une parenthèse. Quand un païen a voulu demander à Hillel de lui enseigner toute la Torah pendant le temps qu'il est sur un pied, vous connaissez ce midrash, hein? Et Hillel lui a répondu, ton araméen, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Voilà toute la Torah, un seul principe, dit Hillel, mais on oublie toujours la suite. Et il dit, maintenant on va apprendre comment on fait ça. Zilgmor. Va apprendre comment on fait ça. Voilà ce qui manque aux gens. Ils admettent les principes, mais ils ne savent pas les appliquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi, tout simplement. Et l'idée d'aller chercher le mode d'emploi là où il se trouve, dans la Torah elle-même, ça ne leur vient pas. Et alors, toutes les civilisations, depuis des siècles, ont cherché à résoudre ce problème. Et, semble-t-il, on n'a jamais trouvé le mode d'emploi pratique, concret, dans tel cas précis. Comment se comporter pour que ce verset soit réussi? Voilà, c'est ça l'objectif de cette étude que nous sommes en train de faire. Comment Israël a compris ces situations humaines, et lorsque cette société qui en fin de compte devient Israël a compris ces situations humaines, alors la Torah lui a été révélée. La Torah a été révélée au peuple qui était capable de l'entendre, cette Torah. C'est-à-dire au peuple chez qui toutes ces situations qui, dans l'histoire des Goïms, n'ont pas d'issue. Dans l'histoire des Goïms, perpétuellement, Caïn tue Abel. Perpétuellement, on prend le nom du fils, on le donne à la ville. Et c'est ça qu'on va étudier. Comment est arrivée dans l'humanité cette identité Israël, capable de comprendre ce problème-là, de telle sorte que la Torah lui soit révélée. Alors voilà donc la deuxième lecture de cet enseignement de Rabbi Akiva. Je vous le lis les mêmes mots en changeant l'accent. Ze klal gadol va Torah. C'est le principe d'un grand dans la Torah. Ça veut dire qu'il faut être grand dans la Torah pour savoir appliquer ce principe. Je vous relis en hébreu. Première lecture. Zeklal gadol batorah, un grand principe dans la Torah. Deuxième lecture. C'est le principe d'un grand dans la Torah. Vous entendez en hébreu? Zeklal shel gadol batorah. Et voilà donc l'enseignement qu'il faut retirer de cette Mishnah. Nous sommes en train à peine de commencer à lire la préface à cette Torah qui a pour objectif de résoudre ce problème-là. Le problème qui se pose à l'histoire humaine, c'est-à-dire la coexistence pacifique. comment faire que deux personnes, et donc tout autrui et autrui, de famille, de peuple, de pays, puissent coexister en paix. Et on s'aperçoit que, et ça va être ça le signe des temps messianiques, que cette paix est impossible à établir. C'est un peu pour ça que je pensais peut-être à la Yougoslavie tout à l'heure. Regardez ce qui se passe. L'humanité dispose d'un outil pour imposer la paix, c'est l'ONU. Tout le monde est prêt à envoyer sa propre armée à l'ONU pour imposer la paix en Yougoslavie. Et vous avez remarqué que ça ne marche pas. Il n'y a pas moyen. Okay. Il y a tout un faisceau de jeux d'intérêt qui rend inefficace la bonne volonté de vouloir imposer la paix quelque part. Vous avez remarqué ça. Okay. Bon, ben c'est cette histoire qu'on est en train de lire. D'où viennent la difficulté de ces situations impossibles à résoudre. Alors on était arrivé à ce deuxième sursis. Le premier, je vous le rappelle, surtout pour ceux qui n'étaient pas là, il y a eu un fait qu'on pourrait définir soit comme un crime, soit comme une sanction méritée. Caïn a tué Abel, et il faut faire un jugement pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Ce jugement, Dieu va donner 7 générations de sursis à Caïn. On va voir ce qui va sortir de cette civilisation de Caïn. En fin de compte, il en sort la société fonctionnelle. Je crois qu'on a étudié ça la dernière fois. Dans la 7e génération, on a inventé les armes. Alors, à la 7e génération, qui a inventé les armes à la 7e génération ? Pourquoi vous parlez dans ma barbe ? Parlez fort.
La 5e ou la
7e ?
7e.
Ma ? J'ai entendu. Ma ? Ah, enfin, Tuval Caïn, qui est le Vulcain dans la mythologie grecque. Okay. C'est un mot hébreu grécisé, hellénisé, pardon. Eh bien, puisque la descendance de Caïn a inventé les armes, ça dévoile que le fondateur de cette civilisation, c'était bien un assassin. Donc ça, c'est les 7 générations du premier sursis. Alors tout de suite, on voit que Dieu suscite un deuxième sursis. C'est le fils qui pourrait être l'éducateur. C'est déjà qu'on était parti. Alors, oui, qu'est-ce que je vous demande ? Une chose très simple. On se voit tous les mardis, en principe. Alors, de mardi à mardi, vous avez une semaine. Prenez le temps qu'il faut, un quart d'heure, pour vous remettre dans le sujet, et que je n'ai pas, moi, à perdre une heure pour reprendre ce qu'on a fait avant. Non, je vous parle très sérieusement, parce que si ça continue à marcher comme ça, on arrête ce cours. Si vous apprenez pas, moi, j'ai autre chose à faire. Ne resteront que ceux qui vraiment préparent leur cours. Je déteste cette espèce de snobisme qui consiste à assister à un cours comme si on était au cinéma. Vous étudiez avec votre tête, pas avec la mienne. Je pense que c'est clair ce que je dis là. Je ne répéterai pas ça souvent, surtout pour les filles qui ne sont pas habituées à étudier. Prenez-vous par la main et apprenez par cœur, s'il faut, ce qu'on vous donne à apprendre, c'est tout. Après, vous verrez que c'est comme ça qu'on apprend. Bien. Alors, quelle heure il est déjà ? 11h30. Alors vous allez prendre 5 minutes de détente. Et puis pendant la deuxième heure, je voulais faire ça la première, je vous donnerai la liste de ces 7 sursis. Alors voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde, ces 2 premiers sursis. Je ne suis pas revenu sur la question de savoir pourquoi il était normal que Dieu donne ces sursis successifs à la civilisation fondée par Caïn. Ça, je vous rappelle très brièvement, on l'a vu la dernière fois, étant donné la difficulté du problème qui est imposé à l'homme, résoudre la relation d'altérité, la relation de fraternité, il est nécessaire donc que toute cette histoire se fasse à l'abri de ce sursis. Ça, vous le relirez plus tard lorsqu'on étudiera la notion du repentir. Le sursis qui est donné, c'est un temps dans l'espoir que, après l'échec, il y ait quand même un repentir de la conscience et qu'on puisse restaurer la situation qui a été dégradée par la faute. Alors cette notion de sursis se relie à un des principes importants de la Torah, c'est que quelle que soit la faute, bien sûr ça s'étudie en détail, quelle que soit la faute, le repentir peut réparer ce que la faute a entraîné comme conséquence. retenez simplement que dès qu'on découvre la difficulté du problème posé à l'homme, on comprend que d'une certaine manière, la justice veut qu'il y ait cette clause du repentir possible, d'où le sursis. Parce que, inévitablement, on se pose la question pourquoi cette civilisation, qui est une civilisation de l'échec, est tellement protégée, pas seulement ce qu'on voit dans l'existence, mais le récit biblique montre que c'est intentionnellement que Dieu protège la civilisation créée à partir du premier homme, alors que c'est le récit d'échecs successifs. Alors tout cela, vous le relirez à cette notion de sursis. Pourquoi il y a deux T différents? Je croyais que je voyais double. Comment? Vous en avez trois même? Top. Alors vous allez noter toutes ces références et suivre sur le texte. J'espère qu'on aura le temps de dire quelques mots de chacune. Donc la naissance de Hanor, c'est au verset 17 du chapitre 4. Dans le même verset, le verset 17, on a cette indication qui est très importante. Le nom de l'homme au niveau du fils de Caïn, c'est Hanor. Et je vous rappelle, vous l'avez d'ailleurs signalé tout à l'heure, que Hanor, c'est la même racine que le terme hébreu qui veut dire l'éducation. Donc, d'une certaine manière, Hanor a la personnalité de l'éducateur. Ce qu'il fallait comprendre est très simple. En quoi le fils sert d'éducateur au père? C'est la relation d'amour qui est plus facile entre le fils et le père que entre le frère et le frère. C'est-à-dire, un père ne verra pas dans son fils le rival, tandis qu'un frère voit dans son frère le rival. Du moins, c'est ce que la Torah espère. Et dans l'existence concrète, dans la réalité de l'existence, il y a toutes les déviations possibles de la conscience humaine. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants, il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents, mais ce sont des perversions. La relation du père au fils, en principe, devrait être naturellement une relation d'amour de base. Bien évidemment, encore une fois, je cherche mes mots pour ne pas dire trop de choses à la fois. Bien évidemment, c'est pas toujours que le père et le fils sont des relations simples. Mais ça, c'est le résultat de perversions psychologiques. C'est le résultat de maladies, finalement. Le mot est un peu fort, mais c'est un peu dans ce sens-là. Lorsqu'un père n'aime pas son fils, ça se soigne. Lorsqu'un fils n'aime pas son père, ça se soigne. Et d'ailleurs, vous avez énormément de médecins qui gagnent leur vie grâce à ça. Ça s'appelle les psychiatres. Hein, vous savez ça. Et lorsqu'il y a échec dans l'éducation, eh bien, ça nourrit les docteurs. Réfléchissez bien à ce que je vous dis, parce qu'un jour, vous serez des jeunes parents. Et il faut savoir que ce qui se passe entre les parents et les enfants, c'est très important dès les premiers moments de la vie des enfants. C'est jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près que va se constituer le destin d'une personne humaine, d'où la responsabilité énorme des jeunes parents. Et dans les familles traditionnelles habituelles, c'est les grands-parents qui aidaient les parents à élever les enfants. Parce que les grands-parents sont d'anciens parents qui ont compris les erreurs qu'ils avaient faites quand ils étaient parents. Alors quand ils deviennent grands-parents, ça s'arrange. Et dans une famille où ce n'est pas les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, ça se sent. Une famille où manque les grands-parents, ça se ressent chez les enfants. Bon, je vous en parle de manière très schématique, mais vous comprenez l'importance du problème. Les jeunes parents croient qu'ils vont inventer l'éducation, et en général, ils font énormément de maladresses qui retentissent sur le psychisme des enfants qui se forment dans le plus jeune âge. Et ensuite, ces enfants sont toute leur vie à la recherche de leur enfance qui a été mal vécue. Et c'est ça qui donne à manger au psychiatre. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, méfiez-vous de cela. Avant d'avoir des enfants, apprenez comment on élève les enfants. On apprend chez ses propres parents lorsqu'ils sont devenus grands-parents. C'est clair ce que je dis là? Je vais le dire d'une autre manière. Réfléchissez bien que c'est important cela. Très souvent, très inconsciemment, les jeunes parents se vengent sur leurs propres enfants du traitement qu'ils ont eu de leurs propres parents, même sans s'en rendre compte. C'est un phénomène psychologique profond, très, très grave, qui peut mener à des dégâts difficiles à soigner. Bon, d'un autre problème. Alors voilà, donc ce deuxième sursis, dans le même verset, la Torah nous annonce l'échec. Vaïkra Shemahir Keshem Benon Chanor. Et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils Chanor. Je vous avais demandé de préparer un chapitre dans l'histoire des patriarches, qui était le chapitre 33, si je me souviens bien. C'est bien à vous que j'ai demandé ça. Je n'ai pas demandé de lire le chapitre de Shrey Medina. Non ? Bon, eh bien, on va prendre ça comme exercice. Alors, prenez le chapitre 33, c'est Lamed Gimel, je pense. Lamed Dal. Chapitre 34. Donc, là, je vous l'avais bien demandé, alors. Ken ? Oui ? Tu as noté ? Donc, je vous l'ai demandé. Alors, vous vous rendez compte, de toute la salle, il y a une seule personne qui se rappelle que je l'avais demandé de lire ce chapitre-là. Alors, qui l'a lu ? Même pas toi. Tu l'as lu, Javi ? Bon, alors tu vas prendre le chapitre.
Comment j'ai
leur pensée ? Ça fait rien, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a frappé au début dans les noms ? Le problème du rapport entre le nom de l'homme et le nom de la ville. Est-ce que quelque chose t'a frappé là-dessus ? Est-ce que tu l'as lu, ce chapitre ?
Oui, je l'ai lu, mais
Mais si tu l'as lu, tu dois l'avoir en mémoire. Il n'y a rien qui vous a frappé. Lisez les premiers versets. À voir. Tu vas lire d'abord le verset 18 du chapitre 33. Prends le chapitre 33, verset 18. En français, ça gagnera
Jacob
du temps.
Arriva sauf à la ville de Sichem.
À la ville de
Sichem.
Comment c'est en hébreu cette ville ? Shrem. Très bien. Alors, dans ce verset, on apprend que le mot de Shrem, c'est le nom de la ville où va Jacob. Alors, prends maintenant le chapitre 34. Dis lentement. Hein.
34.
Oui, 34, depuis le premier verset.
Ordina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sorti pour faire connaissance avec les filles du pays.
Oui.
Elle fut remarquée de Sichrem, fils de Ramon.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là ? Que Shrem, c'est le nom ?
Le nom du fils du gouvernement du pays.
Alors, on a un exemple, de nouveau, de ce fait que la ville et l'homme ont le même nom. Dès le début du récit, on peut se poser une question importante. Pourquoi la Torah juge que c'est important que l'on sache que dès que Jacob est rentré dans le pays en revenant de son exil chez Laban, Dina est allée voir, faire connaissance pour rencontrer les filles du pays. Pourquoi ça doit nous intéresser ? Alors je vais vous expliquer ça, vous allez vous-même comprendre de quoi il s'agit. Lorsque Jacob revient de son exil de chez Laban, tous ses enfants sont nés ou à naître, les onze premiers fils de Jacob sont nés, le onzième étant Joseph, Rachel est enceinte de Benjamin, qui va naître, et il y a, dans tous les cas, sûrement 11 garçons, il va y en avoir 12, et une fille. Et alors le premier problème qui va se poser à Jacob, c'est de trouver un mari pour Dina. Alors c'est un problème très important, parce que l'identité d'Israël est en train de se constituer, c'est Jacob et ses enfants. Et normalement, les fils de Jacob vont fonder les tribus d'Israël. Et voilà que les tribus d'Israël devaient être au nombre de 13. Elles ne peuvent être qu'au nombre de 12 parce qu'il y a une fille. Alors ça, je commence par expliquer ça. On est habitué au chiffre des 12 tribus d'Israël. Mais en fait, il y en a 13. Parce que, je vais vous raconter l'histoire depuis l'origine, on voit que Jacob est préoccupé par ce problème, arrivé à avoir 13 tribus. Je schématise beaucoup, vous aurez à réapprendre ça plus tard sur texte. Le mot de Echad, qui signifie un, a comme valeur numérique 13. C'est-à-dire, ça signifie qu'en hébreu, il y a 13 dimensions de l'unité. Vous avez entendu parler des 13 attributs de Dieu. Il y a les 13 tribus d'Israël et les 13 attributs de Dieu qui se correspondent. Le Israël dit de Dieu, « Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echad » et Dieu dit d'Israël, « Umi ke'amecha ke'Israël, lo yechad ba'ed » Le Echad du nom de Dieu et le Echad d'Israël se correspondent. Et alors, il faut donc qu'il y ait 13 tribus d'Israël, chacune d'entre elles étant responsable d'un des attributs de l'unité divine. Tout ça, vous aurez le temps d'apprendre par la suite. Pourquoi il y a 13 tribus d'Israël? Pourquoi il y a 13 manières d'être Israël? Ça correspond à la vocation d'Israël qui doit faire l'unité des valeurs.